France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron.
Je suis Joëlle Léandre, je suis née à Aix-en-Provence et je suis avant tout contrebassiste, improvisatrice et compositrice.
She yells and shouts and sings. A merry bell is a Scottish woman, she yells and shouts and sings. A merry bell is a Scottish woman, she yells and shouts and sings. She gives you a drink of whiskey, makes your heart take wings. I like Mary Bell, my neighbour, who lives down four flights from me. Me and my next door neighbour, Kath, go down there for tea and telly, tea and telly, tea and telly. We go down there for tea and telly. The Mary Belly, Scottish woman who shouts and sings and yells and laughs and laughs.
Joëlle Léandre, vous êtes une femme de conviction. Vous avez dit lors de ces entretiens, vivre c'est choisir. Et vos choix à vous sont clairs, ils sont assumés. Et quand vous êtes en colère, vous le faites savoir.
J'ai cru arrivant, montant ma rue de Rome, et je le porte encore à 70 ans bientôt, que l'artiste est subversif. Il doit changer le monde. Sinon, j'ai rien contre, il devient institutionnel. Sont bien. Moi, j'ai rien contre le gars ou la fille qui reçoit ses 3 commandes par an et l'autre qui. Non.
Changer le monde ou changer quelque chose dans celui ou celle qui vous écoute?
Non, changer le monde. Changer c'est le politique. Monde. Changer le monde. Le monde va mal. L'organisation du monde, politiquement, va mal. D'où les hiérarchies, les commandements, les ça, homme, femme, femme, homme. Tout ce qui se passe là, qui transpire en ce moment. Parce qu'on n'a pas parlé du monde de femme. Après tout, je suis une femme aussi. Ce monde-là où on nous a étouffés, quelque part, et cette chose-là, de prendre la parole, c'est vrai que je l'ai pris jeune, moi, la parole, mais qui m'a dynamisé, j'en sais rien. C'est ce domaine de liberté, je crois. C'est savoir, ne pas savoir. Donc c'est un état très ouvert. Je ne peux pas dire mieux.
Parlons des femmes, justement, Joëlle Léandre. Je crois que c'est en 79, vous découvrez à Paris, c'est au Duc des Lombards, The Feminist Improvising Group, oui. Avec... Irene Schweitzer, Megan Nichols et Lindsay Cooper.
Lindsay Cooper, il y avait une fille, que j'ai oublié le nom, à la trompette. Il y avait Georgie Bourne aussi, qui est devenue une très très grande intellectuelle, musicologue anglaise, qui jouait du violoncelle. J'étais là, je l'ai écouté. Big band, bon, est-ce qu'à 7 on est big band, oui. De filles. Oh là là, c'était extraordinaire. Elles arrivaient, elles chantaient, elles tapaient, je sais moi ce qu'elles faisaient, un bazar. Mais quand on écoute, je l'ai dit aussi, Art Ensemble Chicago, ils arrivent peinture lurée au Sunrise, ils ont des grelots, là là, ils ont des... Ils jouent 4 instruments dans la soirée, voilà. Pourquoi pas les filles entre elles, je dirais. Donc c'était une sorte de petite révolution. Et c'est de suite été dynamisé encore, mais très appelé, comme ça, attiré. Irène, qui est une extraordinaire musicienne, pianiste, évidemment femme, comme ça, très créatrice, qui vient du jazz, elle, par contre. Elle jouait du boogie-boogie quand elle a commencé le piano dans le restaurant de ses parents. Et Maggie, la chanteuse Maggie Nichols. Donc ça s'est fait sur 2-3 ans, on s'est écrit... Et c'était assez extraordinaire de voir ces filles ensemble, quoi. Il y a pas de raison. Je suis pas pour le fait de dire, ah, les gars nous ont oubliés, on va jouer entre nous, on va pas refaire les grosses bêtises qu'ils auraient fait et les oublis, n'est-ce pas, de cette parité, j'aime pas le terme, enfin, de savoir que l'âme sœur est là et que les filles, les femmes sont importantes et nos différences ne peuvent que cohabiter. C'est une erreur terrifiante. Ce monde d'hommes qui reste encore très, qui plus est dans le jazz, très, très, ça bouge un peu, ça bouge très lentement. C'est quelqu'un qui a un certain âge qui vous parle de cette chose. Ça bouge très rarement. Les filles sur les routes, leur band, trouver les sous, trouver le gig, comme on dit dans le jazz, c'est-à-dire le concert, la chose, défendre le cachet, l'écriture, que ça soit composé ou improvisé, c'est la même chose pour moi, clac clac, et sur les routes, assis, des paquets d'heures, il n'y a rien à bouffer dans le train, tac, et on joue cette liberté, ce voyage, je ne sais, eh bien, mes amis, il n'y en a pas encore assez. Cette vie-là du musicien, il y en a toujours très très peu.
Thank you. Alors Joëlle, vous n'êtes pas pour les festivals féminins ou féministes, pour les groupes de femmes. Il y a néanmoins eu les Trois Dames avec Annick Nosati, je crois, et Irène Schweitzer.
Absolument. On a joué quelques festivals avec Annie qui était extraordinaire. Oh là là, Annie.
Chanteuse.
Oh, chanteuse, habillée tout de noir, ouais. Comme ça, elle avait des gros sortes qui pendaient. Comme ça, elle arrivait avec des bottes. Je pense qu'il n'y a pas une botte qui était en haut, qui était un peu crevée. Enfin, c'était un personnage. Hein. Elle avait une voix incroyable. On a eu un duo de très longues années. Une année, je ne sais pas quand on disait, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On allait jouer là-bas, au Dunois, où tout se passait, évidemment, tout ce qui était un peu, pas du tout institution. Et puis d'un coup, mon Annick, oh, elle arrivait, puis elle me disait, vite, vite, parce qu'on était pressés, ils étaient là depuis 20 minutes au moins, sûrement plus d'ailleurs. Ah, mais je veux plus. Je sais pas chanter, elle me dit. D'un coup, elle a une sorte de cri. Je veux pas. Je dis, Annick, tu vas chanter. On dit, elle dure, on va chanter. Non, je vais pas chanter. Je sais pas chanter. Parce qu'on avait bu des petits coups quand même. C'est, je vous dis pas. Tout se passait là. Mais vraiment, tout se passait là. C'était un repère. Il y avait du monde, hein. Moi, j'ai fait plusieurs disques qui ont été enregistrés là aussi. Il y a eu un duo longtemps avec Annick. Hein, on a pas tourné, mais pas loin de 10 ans. Oh, elle jouait aussi les sculptures bâchées. Elle avait une sorte de cône comme ça, avec un pied. Quand on prenait le train dur, on a fait plusieurs festivals, avec moi, ma contrebasse, pour enfourguer cette contrebasse dans les petits couloirs de train. Annick, rien que le pied, il était en V comme ça, et ça tord, parce qu'elle se positionnait comme ça, derrière, dos public, et ça donnait une caisse de résonance. On pouvait pas rentrer le pied. C'était vraiment spartiate, tout ça. Ça, c'était Annick, qui est devenue, effectivement, un trio avec Irène Schweitzer au piano. Grande dame, hein, c'est la great lady piano européen. C'est quand même une des premières dames qui, dès les années 60, était la seule femme en Europe qui jouait dans l'histoire du jazz. Sa musique, puisqu'elle partait avec les gars, en trio, avec Koval déjà, enfin avec pas mal d'Allemands. Et donc Irène, qui est devenue, justement, ce trio, pas très loin après, 2 ans après, Les Diaboliques.
Donc avec Maggie Nichols, vocaliste, chanteuse,
absolument.
Qui remplaçait Annick Nosati.
Ouais, j'aime pas le mot remplacer pour un musicien, qui était haute, parce que Dieu sait si elles étaient hautes, vocalement. Et puis ce trio continue, parce que j'ai dit, l'année dernière, on joue encore un festival à Varsovie, donc en Pologne. Même si on fait que 2 concerts par an ou 3, mais le groupe existe encore. Sinon, on est toujours très peu là. Évidemment, il y a la rencontre et ce nouveau trio. J'ai tellement joué avec différents groupes et pas que des rencontres qui sont devenues des vrais groupes enregistrés. J'ai beaucoup enregistré aussi, mais avec Nicole Mitchell en ce moment, là, depuis 7 ans.
La flûtiste.
Et Mira Melford. On est différentes. J'aime jouer avec les filles comme ça, duo 3. Je pense que les filles ont plus d'humour. Elles ont une distance d'elles-mêmes ou quoi. Il y a une légèreté, ça ne veut pas dire qu'on joue léger, parce que ça tricote, là. La Nicole Mitchell, il faut être là, il ne faut pas regarder les papillons. Et Mira, n'en parlons pas. Mais il y a quelque chose, il y a une autre jubilation, il y a un jeu, il y a une sériosité, mais il y a une distance. Et c'est une grande joie. Les gars, très souvent, trop souvent, se prennent vraiment un peu trop au sérieux. Hein. Il y a deux mondes, il y a la compète, un peu de compète avec les filles, on joue, c'est bien, c'est moyen, c'est grand, c'est sublime. Les gars ont la, je crois, alors, faut pas généraliser comme on dit, ils sont en compète. Dans le jazz, c'est flagrant aussi. L'autre qui te sort un chorus au drums qui en finit plus, tu dis « Hey guys, si tu prends un chorus, fais du solo alors. Tu prends ton truc, tu prends ton train, puis tu donnes des solo drums, tu vois. » Le sujet même de la musique, c'est du collectif. C'est l'improvisation, mais c'est pas que ça. On trouve dans toute forme et toute culture. C'est du collectif. Et cette chose-là de pouvoir peut-être même, de compétition, je crois que les filles ont pas ça.
Nicht. Du bist unschuldig, weiß, fromm. Ein Jüngling so wie du vermag am besten das bitterste Musterherz zu trösten.
On n'a pas assez d'exemples, on n'a pas assez d'idoles, on n'a pas assez de podiums, femmes. Ils ont tout. Ils ont autant Elvis Presley que Beethoven, que Schopenhauer, que je ne sais pas quoi, que Gilbert Bécaud. Non, mais je blague, mais c'est la réalité. On n'a pas assez de podiums. Où se référer? Il n'y a pas de podium. Oui, on va nommer deux, trois philosophes. On va nommer, je ne sais pas, Janis Joplin. Oui, peut-être. Quelques jazz women, très peu. Carla Bley, la femme de Coltrane. Il y a très, très peu. Très, très peu. Faut que ça suffit, cette chose-là. Mm. Ça suffit, c'est terminé. Il faut que les filles aussi travaillent. Il n'y a pas assez de sororité. Il faut que les filles croient qu'elles s'invitent, et pas qu'avec elles, mais qu'il y ait cette force moteur de sororité. Ça bouge un peu, pas assez, mais on l'a déjà dit. Et en musique, c'est flagrant. Jazz, n'en parlons pas.
Joël, Les Diaboliques, c'est l'un de vos groupes les plus anciens, finalement. Pourquoi Les Diaboliques? Pourquoi ce nom?
C'est un film français, Les Diaboliques. Et c'est Maggie. Pourquoi pas Les Diaboliques? Le tritout. Les Diaboliques! Je crois que ça vient de là. C'est Maggie, de toute façon, qui a trouvé le nom. C'est ni moi, ni Irène.
Alors, la jubilation, elle est là, hein, au concert des Diaboliques, en général.
Oh là là,
il y a beaucoup de théâtre,
Maggie.
Beaucoup de joie, beaucoup
oh
de...
Oh là là, Maggie, j'ai tout vu, Maggie. Je l'ai vu se déshabiller, courir sous le piano, elle, sortir, prendre une chaise, interpeller la reine. Et beaucoup, oui, beaucoup du monde, mais pas que. Moi, j'appelle ça la désacralisation. Est-ce que c'est se prendre au sérieux? Non, parce que la musique... Elle est tellement sérieuse, cette musique. C'est une distance, c'est oser aussi. Hein. L'improvisation, on ose. Hein. Tout est possible dans l'improvisation. Tout est permis, peut-être. Et il n'y a pas ce sujet, justement, de hiérarchie. Hommes et femmes, l'improvisation, il n'y a pas de gendre, comme on dit. C'est ce que le musicien ou la musicienne contient, dit, a traversé et propose avec fragilité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? On est fragile, on arrive. Non, on n'arrive pas qu'à d'or, on arrive tout menu, tout fragile. Ce seul savoir, peut-être, est instrumental. Et nos différences, on les expose, on se met à nu, c'est une mise à nu. C'est risqué, c'est le ravin. C'est le funambule et c'est le ravin, on peut tomber. Et c'est tellement jubilatoire que c'est cette jubilation d'être soi ou de cette tendance liberté qui fait qu'on ose. Et c'est extraordinaire, c'est une musique extraordinaire. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer un musicien qui a 75 ans, extraordinaire, qui arrive avec sa trompette ou son piano ou son drum, et vous en avez 28. C'est faire de la musique ensemble. C'est une très très grande écoute, c'est savoir qu'il y a des... Et on le sait... Il y a des pertes, c'est pas de pertes, mais enfin, il y a des ratages, il y a des... C'est pas le sujet de l'œuvre, voilà. C'est pas le sujet de cette presque perfection, on n'est pas là-dedans. Et c'est une musique inouïe, c'est vraiment inouïe. Et ça touche des strates hautement spirituelles, bien sûr, qu'on retrouve aussi dans, et avec certains, je l'ai dit tout à l'heure, très grands interprètes, où la musique est plus forte que la musique. On la suit, on n'est rien. C'est tel.
Musique, les grands entretiens de Joël Léandre.
On évoque la spiritualité. J'ai envie, Joël Léandre, qu'on parle maintenant d'une figure qui a été très proche de vous à un moment donné, pendant une dizaine d'années, je crois. C'est le compositeur Giacinto Scelsi. Mmh. Voilà un compositeur spirituel.
Et très improvisateur.
Oui.
On correspondait, j'ai beaucoup de lettres, de courriers de Chelsea. Et j'avais joué du Chelsea et ça m'avait bouleversé. Et c'est toujours Ivan Mikhaïlov, il me dit, comment tu connais pas le comte? Parce que ça s'appelait le comte Chelsea d'Ayala, je ne sais plus son nom. Non. Bah, il me dit, tu l'appelles. Oh, jamais j'oublierai. J'arrive donc un an après. Et j'avais une partition déjà. Je crois que c'était un trio. Avec harpe et gong. Okanagon. Tellement difficile, my god. Mais bouleversant. Et j'appelle Jacinto. Moi, je suis un peu comme ça. Hein. J'y vais, pop. Allô, Jacinto? Qui c'est? Mais il avait un accent italien. Italien-français, parce qu'il adorait parler français. Je dis, toute penote, je suis Joël Léandre, contrebassiste. Vous venez quand me voir dans la seconde? Et j'avais pris, je pense dans le mois même, parce que j'avais dit l'œuvre que j'avais jouée, la musique que j'avais jouée, à Buffalo, et puis que je, voilà, que j'aimais beaucoup sa musique. Et j'avais pris le Palatine, à l'époque, il y avait ce train. Et donc, de 78 à 88, bah, c'était des 3 jours, c'était une semaine chez lui, puisqu'il vivait au 3e, 2e étage, puis il y avait la terrasse, il adorait se mettre au soleil sur sa terrasse. Et on allait le voir, il descendait à des heures très précises, et on travaillait sa musique. Et par chance, comme il aimait les graves, apparemment, parce qu'il, et il était grave à sa manière, oui, oui. Très coquin aussi, avec ses grands yeux bleus, droits, comme ça, il faisait, il pratiquait beaucoup le yoga. Il avait un grand Bouddha au fond, un Bouddha thaïlandais. On venait pour travailler et on dormait donc au premier étage. Il y avait la Bruna, oh là là, la Bruna qui était folle, elle était un peu folle, elle était folle. Et le soir on mangeait tête à tête, son 2e étage, un peu la soupe, la mozzarella. Il nous demandait, quand on le voyait après la leçon, je dirais presque, de jouer, de comprendre sa musique. Et c'est la Brune qui faisait la cuisine. Alors il me disait, je disais, Jacinta, la Brune, elle le crie en bas, je lui demande un café dans le couloir. Elle partait, parce qu'elle était polie, elle savait qu'il y avait des gens qui passaient, et elle partait comme une furie dans le couloir. Je sais pas ce qu'elle a raconté, et elle revenait. Alors elle me posait le café. Alors je lui disais à Jacinta, je dis, Jacinta, qu'est-ce que c'est, elle le crie. Il me dit, ça fait rien, il me disait. Je sais, mais elle fait les courses. Elle est un peu folle, mais elle fait très bien la cuisine. Et l'après-midi, il descendait et on travaillait. Et puis après, on s'asseyait sur ce sofa, là, très long, ce canapé, où il y avait derrière, je crois que c'est un Dali qu'il y avait. Et il y avait son fameux palmier, au loin, là-bas, du forum. Et il tenait la main. Moi, ce que j'ai vécu, d'autres vous diront peut-être autre chose. Et rien se disait. Eh bien, oui, on sentait une vibration qui passait. Oui, il était immensément homme spirituel. On en a dit des milliers de choses.
Traversé.
Très traversé. On connaît son seul portrait, quelque part. Maintenant, c'est un peu plus ouvert. Vraiment unique. Oui, vraiment unique.
De la musique, je ne parlerai pas. Mais je veux rendre hommage à ces musiciens qu'on appelle interprètes, qui, par un dévouement incroyable, sortent mes notes de leur instrument. Je ne suis moi qu'un intermédiaire, un messager, c'est encore trop, disons un facteur, qui apporte des cartes postales ou des lettres qui rendent ceux qui les reçoivent joyeux ou triste, qui le laisse indifférent.
« Donc j'ai fait ça pendant 10 ans. C'était une grande. Mais ils connaissaient beaucoup de choses de moi parce qu'à ces époques-là, j'ai peint, j'envoyais tous mes poèmes, j'envoyais des peintures et je prenais la photo et ils me disaient peins, ils me disaient c'est magnifique, peins. Tu dois peindre, tu peins, tu écris. Ils connaissaient beaucoup de choses. On était rentrés dans des intimités et puis j'allais le voir et puis j'étais là à sa mort. Parce que c'est quand même une chose à dire, puisqu'il m'a appelé pour que je sois là à sa mort. Ce n'est pas une symbole, puisque 4 jours avant, j'étais à Aix. Il m'a dit, tu es où ? J'ai dit, tu viens me voir ? Et donc, je l'ai vu, il avait un caillot qui circulait. Il avait une canne à la fin, dont il y a eu une nuit très mouvementée, que j'ai traversée moi, par contre. Ou qui m'a fait traverser. Oui, il m'a fait traverser, oui. Sa mort même. Sa partance, puisqu'il est parti, il était dans le coma quand je suis allé le voir à l'hôpital. Et j'ai tenu la main. Donc j'ai vu Jacinto partir avec la chose qui l'a aidé comme ça. Et il est parti le 8-8-88. Il avait peur, c'était Otto, 8, via San Teodoro. Mais il savait, il avait une crainte, tout au moins peur, je ne suis pas lui, de cette date du 8. Sa musique est bouleversante. Il n'y a pas de terme. Et c'était un grand improvisateur. Toutes ses œuvres, j'ai du mal à dire œuvres, mais je préfère dire ses pièces. Piano solo, c'est un pianiste, à la base.
Ce sont des improvisations.
C'est en analyse. Chaque pièce, d'ailleurs, mais tout, Botba, tout ce qu'on voit qu'il y a. Pièce solo, je dirais, solo piano. On voit très bien l'organisation qui se casse d'une certaine manière. Il était coquin, parce qu'il avait un vieux Revox, les A77. Il était seul, avec la Brune, c'est tout. Et il improvisait sûrement tard, le soir, comme il devait se coucher sûrement tard, la nuit, puisqu'on ne pouvait pas le voir avant 3h. 3-4 heures l'après-midi. Et il improvisait, improvisateur.
Et pourquoi cette relation privilégiée aux femmes, interprète ?
Il m'a dit que pour lui, c'est affreux de dire ça, parce que ça descend les gars, les pauvres, les femmes étaient plus sensibles que les hommes. Alors qu'est-ce que contient le mot sensible ? Parce que pour moi c'est faux, parce qu'il y a des hommes très sensibles. Est-ce que c'est d'ordre spirituel ? Est-ce que c'est d'ordre quand la femme décide quelque chose ? C'est beaucoup de choses, de l'essayer de développer cette image que j'ai, tout au moins. Je pense que la femme est plus travailleuse que l'homme, dans le sens qu'elle se responsabilise, quand elle se responsabilise, intraitable. J'ai toujours dit que la musique, et j'ose le dire à ce micro, la musique de Chelsea, pour moi, est signée d'ailleurs d'un cercle, est ventrale. Qui dit vie, dit mort. Et seule, la femme porte en sachant qu'elle met à mort. C'est la conscience féminine de toute femme. Sa musique contient cet aspect féminin. Chelsea avait les deux. Il était homme féminin. Et je pense, j'ai toujours pensé, que tout être individu des deux, un homme doit accepter et entendre sa féminité. Et vice-versa, et la femme doit entendre et accepter sa masculinité. Et cette chose, encore et encore, nous est pas interdite, mais moi je le déclare, cette chose-là. Et je l'entends bien. Et la musique de Chelsea avait cet entendement du monde. Sa musique est bouleversante. Et donc, grandement et hautement spirituel.
Bouleversante musique de Jacinto Chelsea, comme est bouleversant ce cri de Joël Léandre dans Maknongan, composition de Chelsea pensée pour la contrebasse, un instrument qu'il aimait visiblement beaucoup. C'était le 4e épisode des Grands Entretiens de Joël Léandre, réalisation Christine Amado, avec Cédric Chatelus, Audrey Guélil, Flora Sternadel, Aude Vassan et Christophe Combes. Suite et fin de ce portrait demain, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.